Daniel. Vous voulez savoir ce que c'est d'être infirmière en pédopsychiatrie? Bienvenue à l'unité pédiatrique d'évaluation clinique de Boston, également connue sous le nom d'UPEC. Notre service occupe le dernier étage de la polyclinique Kirkland. Nous aimons à penser que nous jouissons d'une des plus belles vues de Boston, ce qui n'est que justice étant donné que nous nous occupons de ses citoyens les plus coriaces. Jeudi soir, je me trouvais dans le couloir de l'unité pédiatrique et j'observais notre dernière patiente en date. Elle s'appelait Lucie et avait été admise l'après-midi même. Nous n'avions eu que 24 heures pour nous préparer à son arrivée. Insuffisant, mais nous avions fait de notre mieux. La plupart des enfants dormaient en chambre double. Lucie en avait une pour elle toute seule. La plupart des chambres comprenaient deux lits jumeaux, des tables de chevet et des armoires assorties. La chambre de Lucie contenait en tout et pour tout un matelas et une couverture. Nous avions appris à nos dépens que le verre trempé de nos fenêtres du 7e étage ne résistait pas toujours à la furie d'une enfant armée d'une table de nuit de 10 kilos. Lucie était une enfant sauvage. C'est-à-dire qu'elle avait été victime de mauvais traitements si sévères et continus qu'on l'avait privée de son humanité. Elle ne portait pas de vêtements, ne mangeait pas avec des couverts, n'avait aucune hygiène. Elle ne parlait pas et n'avait jamais appris à aller sur le pot. D'après son dossier, elle avait passé l'essentiel de son existence dans un congélateur débranché avec des trous de balles de revolver en guise d'aération. Le temps passé hors du congélateur avait été pire que le temps passé à l'intérieur. Résultat, une petite fille de 9 ans qui se comportait comme un animal sauvage. Et si nous n'y prenions garde, elle nous apprendrait à la traiter comme telle. Dans l'heure qui a suivi son admission, Lucie a accueilli notre surveillante en déféquant dans sa main et en mangeant ses excréments. 20 minutes plus tard, un moniteur éducateur, ME, l'a observée en train d'éventrer son oreiller pour s'enfourrer le contenu dans différents orifices. L'oreiller a été retiré. Lucie ne nous a pas permis de nous occuper du rembourrage. Une heure plus tard, elle s'ouvrait le bras avec son ongle et dessinait des formes sur le mur avec son sang. Première constatation sur notre nouvelle patiente. Toute forme d'attention semblait déclencher chez elle le besoin de s'avilir. Si Lucie avait un public, il fallait qu'elle souffre. À 4 heures de l'après-midi, nous avons décidé de confiner Lucie dans sa chambre et d'affecter un membre du personnel à sa surveillance. Plutôt que le système des 5 minutes, qui voulait qu'un éducateur vérifie toutes les 5 minutes où se trouve chaque enfant, un membre du personnel allait observer Lucie aussi discrètement que possible et prendre des notes toutes les 20 minutes. Ce soir-là, c'est tombé sur moi. Il a fallu attendre 11 heures du soir avant que les enfants se calment. Certains dormaient sur des matelas dans le couloir tout illuminé, ceux qui avaient une peur panique de l'obscurité. D'autres ne pouvaient dormir que seuls et dans le noir complet. D'autres encore avaient besoin de musique, d'un bruit de fond, ou, pour l'un d'eux, du tic-tac d'un réveil qui simulait les battements cardiaques de sa mère décédée. Nous préparions tout en fonction de chacun. Pour la première nuit de Lucie, je n'ai rien fait de particulier. Je me suis assise dos à la porte et j'ai lu des histoires aux autres enfants. De temps à autre, j'apercevais le reflet de Lucie dans la demi-sphère argentée fixée au plafond. Ces miroirs hémisphériques, disposés à intervalles stratégiques dans le large couloir, nous tenaient lieu de système de surveillance en réfléchissant ce qui se passait dans la chambre de chaque patient. Lucie semblait écouter l'histoire. Roulée en boule par terre, elle balayait l'air de sa main comme un chat qui étudie sa patte. Si j'accélérais ma lecture, sa main bougeait plus vite. Si je ralentissais, son rythme s'adaptait. 20 minutes plus tard, elle avait disparu. Dans le reflet déformé du dôme, j'ai finalement repéré son pied qui dépassait dessous le matelas. Comme elle ne bougeait pas, je me suis retournée pour inspecter sa chambre en direct. En fait, elle avait tiré le matelas sur elle et s'était enfin endormie. De temps à autre, son pied tressaillait comme si elle rêvait. Je me suis installée, moi aussi, assise par terre, dos au mur. Plus d'une demi-douzaine de collègues étaient répartis dans le couloir. Dans le service, on profitait de la nuit pour remplir la paperasse. Il fallait rattraper son retard quand l'occasion se présentait. Aucun enfant ne dormait longtemps. Certains, parmi les cas les plus sévères, réclamaient à manger toutes les 3 heures, même si on ne l'aurait jamais deviné à voir leur silhouette famélique. D'autres n'arrivaient tout simplement pas à dormir. La nuit était synonyme de vieilles terreurs et de peurs nouvelles, le subconscient malmené par tous les mauvais traitements reçus. Certains gamins se réveillaient en pleurant, en hurlant, et d'autres se réveillaient prêts à en découdre, se battre ou s'enfuir. Tout le monde n'était pas fait pour la fuite. J'ai ouvert le premier dossier de patient et senti mes paupières s'alourdir. Je travaillais beaucoup ces derniers temps. De plus en plus de gardes. De moins en moins de sommeil. Il fallait que je m'occupe, surtout à cette période de l'année. Plus que 4 jours et 25 années se seraient écoulées. Une nouvelle commencerait. Toujours aller de l'avant. Le devoir de l'unique survivant. Je me suis demandé ce que penserait Lucie si elle savait que pendant des années, j'avais moi aussi dormi réfugiée sous un matelas. Le jour de mes 18 ans, j'ai séduit le shérif Wayne. Au début, ce n'était pas prémédité. 3 jours plus tôt, je l'avais croisé par hasard à Boston. Il avait amené sa femme, sa fille mariée et ses 2 petits-enfants au Public Garden pour voir les bateaux en forme de cygne. Le soleil brillait. Une belle journée de printemps où les tulipes ondulaient, où les enfants poussaient des cris perçants en pourchassant les canards et les écureuils sur les vastes pelouses. Le shérif Wayne ne m'a pas reconnu. J'imagine que j'avais dû changer en 9 ans. Mes longs cheveux bruns étaient soigneusement coupés, avec une longue frange. Je portais un jean taille basse et un haut à rayures jaunes de chez Urban Outfitters. Ma tante Hélène avait fait de sa plouque de nièce une bostonienne branchée. Du moins, nous aimions toutes les deux à le penser. J'ai reconnu le shérif Wayne de dos. Pas à son allure, à sa manière de se déplacer. À sa démarche assurée sur le chemin lorsqu'il a rassemblé ses petits-enfants qui s'égayaient pour les ramener avec autorité dans le giron familial. Il m'a remarqué, non loin de là, qu'il observait. Il s'est retourné vers les 2 femmes à sa droite et à sa gauche, et là, il a dû avoir le déclic. Cette étrange impression de familiarité a trouvé son explication. Il a fait d'un seul coup volte-face et m'a regardé droit dans les yeux. « Daniel !» a-t-il dit. Et le son de sa voix, après tant d'années à entendre ce murmure dans mes rêves, seul élément sécurisant au milieu de toutes ces images sanglantes et violentes, m'a enfin libérée. J'ai fait un pas, un deuxième. À ce moment-là, sa femme et sa fille avaient remarqué la scène. La fille ne comprenait pas pourquoi je les abordais. Sa femme, Sheila, elle s'appelait, devait se souvenir de moi. Elle se tenait parfaitement immobile et j'ai lu dans son regard une compassion tranquille. Le shérif Wayne a pris les rênes de la situation. Il m'a serré la main, a procédé aux présentations avec sa femme, sa fille, ses petits-enfants. Il a arrondi les angles, en homme habitué à séparer les belligérants dans des rixes de bar. J'aurais pu être la fille d'un vieil ami retrouvé après bien des années. Nous avons échangé quelques banalités sur le beau temps, le parc magnifique. Il m'a parlé de son autre enfant, un fils désormais adulte installé à New York. Nous nous sommes émerveillés devant sa petite fille, cachée derrière les jambes de sa mère, et son petit-fils qui adorait pourchasser les écureuils. J'ai glissé que j'allais rentrer à l'université à l'automne. Le shérif Wayne m'a de nouveau serré la main, plein d'une sereine approbation. Regardez-moi un peu ce que j'étais devenue. Regardez-moi, l'unique survivante. Ils ont continué leur journée, repris le chemin courbe qui descendait vers les bateaux en forme de cygne. Je suis restée à contempler l'endroit où ils s'étaient tenus. Et j'ai su, dès cet instant, qu'il fallait que je revoie le shérif Wayne. Il fallait que je l'aie. J'ai appelé le lendemain. C'était sympa de l'avoir revu dans le parc. Sa fille était ravissante, ses petits-enfants adorables. Voilà, j'avais quelques questions. Je voulais pas le mettre dans l'embarras, mais on pourrait peut-être se revoir, dîner ensemble, juste une fois. Sa réticence était audible. Mais c'était quelqu'un de bien. Alors sa gentillesse a pris le dessus et me l'a livré. Je lui ai donné l'adresse du studio où je m'étais installée cet automne-là. Petite étape sur le chemin de l'université. J'ai laissé entendre qu'il passerait me prendre et que nous sortirions dîner. Je savais déjà qu'il n'en serait rien. J'ai replié mon futon, sorti la table de jeu que j'ai recouverte de ma nappe à fleurs préférée. J'ai dressé un joli couvert avec des assiettes en grès rouge et jaune coordonnées sur un fond aux couleurs chaudes. Un mini bouquet de fleurs violettes au centre. Deux grandes bougies blanches effilées dans des bougeoirs en cristal que ma mère avait autrefois reçus en cadeau de mariage et sans doute déballées dans la joie et l'optimisme. Elle ne pouvait pas savoir. Je me répétais ça en boucle. Elle ne pouvait pas savoir. Je portais un jean taille basse et un chemisier blanc. J'ai laissé mes cheveux bruns lâcher. J'aimais l'effet que ça produisait, ce contraste entre le sombre et le clair. En dessous, je portais un minuscule soutien-gorge balconnet, couleur champagne, et un string en dentelle. Je ne suis pas la fille la mieux dotée du monde, mais je sais me servir de ce que j'ai. Quand le shérif Wayne est arrivé, j'ai bien vu qu'il était consterné par le tableau. La jolie table au milieu de l'appartement de poche, l'odeur de la sauce spaghetti en train de mijoter et des pâtes dans la casserole. Je ne lui ai pas laissé la moindre chance de se raviser. « Entrez, entrez !» ai-je dit tout de suite, rayonnante et pleine d'exubérance juvénile. « Désolée que ce soit si petit, c'est différent quand on habite en ville. » Je lui ai pris son manteau avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, et je l'ai accroché au porte-manteau sans cesser de babiller. Je savais qu'on avait parlé de sortir, mais j'appréhendais un peu d'avoir cette conversation en public. Alors si ça ne l'ennuyait pas, j'avais décidé de jeter quelques pattes dans l'eau. Je n'étais pas un grand chef, j'avais encore des progrès à faire, etc. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il faire, le malheureux? Il m'a assuré que mon appartement était très joli, que la sauce sentait bon. Bien sûr que nous pouvions manger là, du moment que ça me mettait plus à l'aise. Je l'ai fait asseoir à table. Je lui ai servi un généreux verre de vin rouge. Rien pour moi, ça aurait été déplacé. Un peu de musique par là-dessus. Comme il ne me faisait pas l'effet d'un fan des Nine Inch Nails, j'ai opté pour du jazz léger. Nous avons commencé par la salade composée. Assis avec raideur sur sa chaise, il ne touchait pas à son vin, ne quittait pas son assiette des yeux. Il portait bien son âge. Trapu, puissant sans être gros. Des cheveux gris sur un large visage moustachu. Ses gestes étaient précis et cette économie de mouvement me plaisait. Il m'a interrogé sur ma tante, mes études, mes projets d'avenir. Je lui ai brossé un panorama sommaire de ma nouvelle et belle vie. C'était ce qu'il avait besoin d'entendre. Il m'avait un jour porté hors de la maison de mon père, ses bras bien serrés autour de mes épaules maigres, sa voix un chaud murmure à mon oreille. « Ne regarde pas, ma belle. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » J'ai versé les penne dans le plat. Je les ai recouverts de sauce rouge. Et je suis passée aux choses sérieuses. Je ne lui ai pas posé de questions sur mon père. Au lieu de ça, j'ai fait remonter dans la mémoire du shérif Wayne tous les moments lumineux, radieux. Le rire de ma mère, les espiègleries de Johnny, la compassion de Nathalie pour les animaux. Il s'avère que ma sœur avait un jour recueilli un lapin de garenne qui avait été percuté par une voiture et qu'elle l'avait remis sur pattes. Elle voulait faire un métier en rapport avec les animaux. Je l'ai appris au shérif Wayne. Et mon frère aimait grimper en haut des arbres et ensuite appeler ma mère pour qu'elle puisse lever les bras au ciel en poussant des cris d'horreur feinte. Ses souvenirs l'ont touché, naturellement. L'ont fait souffrir encore plus que moi parce que ces gens avaient gardé leur réalité dans son esprit alors qu'ils étaient depuis longtemps devenus des fantômes pour moi. Le vin est vite descendu. Qui le lui aurait reproché? Il a proposé de faire la vaisselle. Je l'ai regardé aller et venir dans ma minuscule cuisine, le geste moins sûr après 2 heures d'intense émotion et une bouteille entière de Chianti. Il a empilé les assiettes dans l'évier, les a rincées une à une, les a mises à tremper. Ensuite les casseroles, puis son verre de vin, puis mon verre d'eau, 2 fourchettes, 2 cuillères, 2 couteaux. Quand il est revenu à la table, j'ai lu sur ses traits hagards combien la soirée l'avait ébranlé. Il a voulu parler, mais je ne l'ai pas laissé faire. Et j'ai ouvert le premier bouton de mon chemisier, puis le deuxième, le troisième. dévoilant centimètre par centimètre un corps longiligne, une peau bronzée, un petit bout de lingerie en dentelle. « Non, » a-t-il dit, « tu ne devrais pas, pas bien. » Je me suis assise à califourchon sur ses genoux. J'ai complètement ouvert mon chemisier, ondulé doucement des hanches contre son bas-ventre. Il a encore voulu protester. De sa bouche sortaient de faibles murmures que je faisais semblant de ne pas entendre. J'ai passé les mains dans ses cheveux à la coupe militaire, suivi les contours de ses solides épaules et senti son corps commencer à répondre alors que ma chemise blanche glissait au sol et que je me cambrais et m'offrais à lui. « Daniel !» Dernière supplique désespérée. J'ai guidé sa bouche vers ma poitrine. Quand j'ai senti ses lèvres se refermer enfin sur mon téton recouvert de dentelle, le besoin qui m'a submergée, un besoin à l'état pur, m'a déchirée plus profondément que toutes les douleurs que j'avais connues. Je l'ai pris, cet homme qui m'avait un jour sauvé la vie. Et l'espace d'un bref instant, il m'a appartenu. Ce n'est que des années plus tard, après avoir fini mes études et m'être lancée dans une carrière en psychiatrie, que j'ai enfin compris le mal que j'avais fait au shérif Wayne ce soir-là. Je souffrais, et je l'avais marqué au fer rouge avec cette douleur. Je l'avais obligé à porter les stigmates de mes blessures. Lui, un homme bien, qui devait vivre jour après jour auprès de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, avec la conscience qu'il y avait eu un soir où il n'avait pas été à la hauteur de son idéal de mari, de père, de rempart de la société. Après cela, quand je dormais la nuit, je n'entendais plus sa voix. J'étais seule avec le sang et la poudre. Plus personne pour m'emporter hors de la maison de mon père. J'imagine que c'est tout ce que je méritais.